islamo-gauchiste d'un côté, islamophobe de l'autre, ces attaques verbales ont évolué du champ du politique à celui de l'enseignement supérieur. François Hellebronn, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur à Sciences Po et nous allons revenir sur ces thèmes, leur réalité à l'université et que peuvent recouvrir ces polémiques. Alors, tout d'abord François Hellebronn, que pensez-vous des propos de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, et de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, sur le danger que représente l'islamo-gauchisme au sein des enseignants de l'enseignement supérieur?
Alors tout d'abord, il faut préciser quelque chose. L'islamo-gauchisme n'est pas un champ d'études académiques, mais c'est une réalité politique et d'une certaine manière une idéologie qui prend corps et se développe dans le champ universitaire comme sur les campus en France. Dans les champs politiques, il y a quelques années, on s'en rappelle, les alliances avec Tariq Ramadan, donc ce représentant des frères musulmans, et une certaine gauche comme Edwy Plenel de Mediapart ou Edgar Morin, le sociologue. Il y a aussi l'alliance que nous avions vue effondrée à l'été 2014 de Mélenchon et de ses militants qui manifestaient aux côtés des islamistes violents à l'été 2014. Mais jusqu'à ce moment-là, le champ universitaire avait été plutôt épargné. Par contre, depuis cette époque, ce que nous avons pu observer, je vais vous donner quelques exemples. À Lille 2, des autorités universitaires ont censuré, 3 ans après son assassinat en 2018, la mise en scène du dernier texte de Charb, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, assassiné, vous vous en rappelez, en janvier 2015. Et pourquoi ce texte a été censuré à Lille 2? Parce qu'il était accusé d'islamophobie et de blasphème. Nous avons au CNRS d'éminents chercheurs décoloniaux qui ne font pas mystère, comme Éric Fassin, directeur du département études de genre à Paris 8, de leur approbation du port du voile ou de leur hostilité à la pénalisation du harcèlement de rue au motif qu'elle stigmatiserait les racisés. On y trouve aussi au CNRS un directeur de recherche émérite, François Burga, qui ne craint pas d'affirmer sa conviction que la télévision française est devenue, quand elle traite du Proche-Orient, une Tel Aviv vision, qu'il y a urgence à promulguer une courageuse loi républicaine sur la séparation, oui, la séparation du CRIF et de l'État, ou que les accusations de viol contre Tariq Ramadan sont une manœuvre internationale dirigée contre le Qatar. Ce monsieur, François Burga, est professeur émérite et chercheur au CNRS. À la Faculté des sciences sociales de Strasbourg, on a fait intervenir dans son master Religion, Société, Espace Public une militante islamiste favorable au camp d'été réservé aux victimes du racisme d'État, c'est-à-dire en clair interdit aux Blancs. Ou encore, à l'Université de Toulouse, invité à plusieurs reprises Ouria Bouteja, dont connaît le jugement sur les Occidentaux, tous des profiteurs, l'homosexualité, voilà ce que dit Ouria Bouteja, la Tarlouse n'est pas tout à fait un homme, ou la Shoah, c'est moins qu'un détail. Et bien cette personne était invitée régulièrement à l'Université de Toulouse. Ces chercheurs et enseignants, heureusement, sont minoritaires, mais nourrissent hélas tout un corpus de pensées venues des campus américains et que l'on nomme la cancel culture, ou ce qu'on appelle aussi les gender studies, les études intersectionnelles et des mots d'ordre décoloniaux. Ça a été très bien analysé dans un livre de Caroline Forest, justement sur la cancel culture, que je vous encourage à lire chez Grasset. Ou je vous encourage aussi à lire l'éditorial de Bernard-Henri Lévy qui consacrait à ce sujet le 25 février, qui a été repris dans La Règle du jeu, très bonne revue en ligne, le 1er mars. Et en fait, il définit très bien, Bernard-Henri Lévy, les effets de l'islamo-gauchisme qui a eu pour effet 3 choses. La première, instrumentaliser les Français d'origine musulmane, devenus les fantassins d'un combat anti-système qui, en plus, n'est pas souvent le leur. Deuxièmement, renforcer en leur sein des courants les plus rétrogrades, obscurantistes, antiféministes de l'islam. Et enfin, l'affaiblissement au sein de la gauche, des tendances restées fidèles à l'héritage antitotalitaire, mais qui, hélas, à l'université, sont en train de se réduire.
Alors, vous avez évoqué le côté, je dirais, enseignant. Est-ce que cela est aussi une réalité du côté des syndicats étudiants?
Tout à fait, Pierre. Du côté des syndicats étudiants, j'ai assisté en tant que professeur à la dérive de l'UNEF, longtemps premier syndicat étudiant en France, mais qui maintenant est en voie de marginalisation. Et je pense qu'elle est en voie de marginalisation justement pour cette fascination récente, je dirais les années 2014-2015, c'est le tournant pour l'islam radical, mais aussi pour les théories décoloniales. C'est une évolution récente, mais c'est une évolution forte, tant au plan national que par université. Tout d'abord, au plan national, c'est la vice-présidente de l'UNEF, Mariam Poujetou, que vous avez tous vue à la télévision ou dans les journaux, qui apparaît voilée de son hijab sur toutes les chaînes de télévision et même au sein de l'Assemblée nationale, passage qui avait provoqué un scandale et une réprobation républicaine de plusieurs députés, de droite comme de gauche. À propos de cette dérive de l'UNEF nationale, je voudrais vous citer l'ancien responsable de l'UNEF de Sciences Po Bordeaux, qui a répondu au site Atlantico, il s'appelle Paul Melun, et voilà ce qu'il déclare en octobre 2020. C'est tout à fait intéressant, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu et observé, moi, à Sciences Po Paris. Lui, c'est à Sciences Po Bordeaux, mais c'est un témoignage de l'intérieur de l'UNEF. Voilà ce que déclare Paul Melun. J'étais issu d'une famille de gauche, dont il était naturel pour moi, dans des mouvements de gauche. J'ai rapidement pris ma carte au Parti Socialiste, au Mouvement de Jeunesse Socialiste et à l'UNEF. Je me suis engagé par passion, je sienne, par volonté de défendre les droits de mes camarades étudiants. Venant de la classe moyenne de province, je croyais à des valeurs de mérite et de promotion sociale. À Sciences Po Bordeaux, l'atmosphère au sein de l'UNEF était sympa, et les militants pas idiots. Mais tout a changé quand j'ai pris la présidence de l'UNEF de l'école et que j'ai été en lien avec le syndicat national. J'ai complètement déchanté, j'ai assisté à des congrès et j'ai découvert un monde complètement différent. Je pensais qu'on allait parler des droits des étudiants, des concours, du coût de l'enseignement, du comment favoriser la promotion sociale, etc., etc. Mais ce n'était pas à l'ordre du jour. Le programme, c'était des luttes intersectionnelles qui n'en finissent plus. Le féminisme, le décolonialisme, la représentation des minorités. J'étais un homme blond aux yeux bleus, j'ai vite compris que les figures de proue de ce mouvement seraient davantage des femmes voilées. On trouvait ça plus inclusif. Pour conclure, il conclut son interview, « Je trouve Jean-Michel Blanquer très courageux d'avoir tenu ses propos. L'islamo-gauchisme qu'il dénonce va s'étendre si nous ne prenons pas garde à toutes les universités de sciences humaines. » Et maintenant, au-delà de ce témoignage, je voudrais vous apporter, moi, le témoignage de professeur à Sciences Po depuis plus de 30 ans et quelques exemples récents des dérives de l'UNEF Sciences Po. En mars 2019, l'UNEF Sciences Po avait soutenu de manière véhémente, jusqu'au conseil de direction, la venue d'une militante palestinienne à Sciences Po appelant au boycott illégal d'Israël et de ses universités. C'était dans le cadre d'une semaine organisée par le BDS, donc le mouvement qui appelle au boycott d'Israël, et qui s'appelait Israeli Apartheid Week. Cette manifestation a été très justement interdite par l'administration de Sciences Po. Et évidemment, j'avais soutenu cette interdiction parce que l'appel au boycott d'une nation est illégal en France, comme l'a reconnu la Cour de cassation. Et à cette époque, le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, avait pris un arrêté d'interdiction. Un mois plus tard, l'UNEF, toujours elle, qui se veut soi-disant le chantre du débat démocratique, a soutenu et a essayé d'empêcher un philosophe français académicien de s'exprimer à Sciences Po, Alain Finkielkraut. Et dans une tribune, ils ont violemment critiqué les deux décisions légitimes et légales de l'administration de Sciences Po, un, d'interdire la manifestation du BDS, et deux, d'inviter Alain Finkielkraut à venir s'exprimer en tant que philosophe et académicien. Donc voilà deux dérives récentes de l'UNEF de Sciences Po et de sa section de Sciences Po. Et j'ai aussi assisté à d'autres dérives sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais ce que j'ai observé, moi qui connais bien l'UNEF Sciences Po comme l'UNEF nationale, c'est qu'en très longtemps, c'était un mouvement de gauche socialiste, parfois trotskiste, mais sur les valeurs universalistes et les valeurs républicaines, ils étaient tout à fait impeccables. Maintenant, ils ont des discours identitaires, racisés, comme les indigènes de la République, comme les intersections. Et c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Et tout dernièrement, quoi, il y a quelques années, ils avaient même soutenu la journée du voile à Sciences Po, ce qu'ils avaient appelé le Hijab Day, qui avait été organisé par les Frères musulmans, une association qui, depuis Sciences Po, a été dissoute. Mais ils avaient bien soutenu cette manifestation, qui est pourtant quelque chose plutôt antiféministe. Donc voilà quelques exemples, à la fois nationaux et locaux, des dérives de l'UNEF, qui n'est plus l'UNEF de ce qu'il a été, qui est en train de rejoindre dans sa mort et dans ses déchirements ce qui est devenu une autre organisation antiraciste qui était le MRAP et qui est mort pour les mêmes raisons.
Pour finir, François Hellebron, que pensez-vous du procès en islamophobie dont deux enseignants de Sciences Po, cette fois Grenoble, ont été l'objet de la part d'un syndicat étudiant ?
Alors, le procès en islamophobie est en train de devenir en France un concept classique de délégitimisation de toute pensée structurée pour faire taire l'autre et menacer les professeurs. Moi, ça me rappelle un peu le bon vieux règne de la terreur stalinienne où tous ceux qui osaient critiquer le paradis du communisme, à savoir l'Union soviétique, étaient taxés de fascistes. Toute pensée aujourd'hui critique de l'islam radical, qui essaie de démonter les mécanismes mortifères d'un islam dévoyé, peut être menacé. Tout professeur qui s'attaque intelligemment à ce sujet peut être taxé d'islamophobe et de fasciste, comme l'ont été mes deux collègues de Sciences Po, dont je suis pleinement solidaire. Ils ont été dénoncés par le syndicat local de Sciences Po Grenoble, qui est en fait une émanation de l'UNEF à nouveau, et ils ont été dénoncés comme islamophobes et comme fascistes. D'ailleurs, c'était assez symptomatique que les deux appellations soient accolées. Depuis, hélas, ils sont menacés, ils ont été mis sous protection policière, et c'est un vrai danger pour la démocratie, c'est un vrai danger pour nos valeurs républicaines, et donc il faut se mobiliser, mais heureusement, dans le monde universitaire, au sein des professeurs, au sein des enseignants, les valeurs républicaines restent majoritaires, mais il faut être vigilant. Et donc je remercie Frédéric Vidal et Jean-Michel Blanquer pour leur lucidité, pour avoir su nommer un danger qui peut menacer à terme le socle républicain au sein de l'université française.
François Heilbronn, professeur à Sciences Po, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir Pierre.